Conte des mille et une nuits, Ali Baba et les 40 voleurs, deuxième face. Morgiane avait fait chauffer de l'eau pour laver le corps de Cassim. Ainsi, Ali Baba, qui arriva comme elle venait de rentrer, le lava, le parfuma d'encens et l'ensevelit avant les cérémonies accoutumées. Le menuisier apporta aussi le cercueil qu'Ali Baba avait pris soin de commander et qu'on reçut à la porte pour éviter toute remarque. L'enterrement eut lieu dans la forme ordinaire et toutes les mesures furent si bien prises que personne ne devina rien et ne soupçonna rien. 3 ou 4 jours après l'enterrement de Cassim, Ali Baba transporta le peu de meubles qu'il avait avec l'argent qu'il avait enlevé du trésor des voleurs, qu'il ne porta que la nuit, dans la maison de la veuve de son frère pour s'y établir. Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba avait un fils qui, depuis quelque temps, avait achevé son apprentissage chez un autre gros marchand qui avait toujours trouvé que c'était un bon garçon, et il la lui donna avec promesse, s'il continuait à bien se tenir, qu'il ne serait pas longtemps à le marier avantageusement. Mais parlons des 40 voleurs, qui, revenus dans leur caverne, n'avaient plus trouvé le corps de Cassim et s'étaient aperçus de la diminution de leur sac d'or. Ils décidèrent de tout mettre en œuvre pour découvrir celui qui connaissait leur cachette et leur secret. C'est pourquoi le capitaine proposa que l'un d'entre eux se rendît à la ville et chercha habilement à savoir qui était leur ennemi et où il habitait. Ils acceptèrent cette proposition et décidèrent même que si le voleur qui allait à la ville ne réussissait pas dans sa recherche, il serait mis à mort à son retour. Cette condition n'empêcha pas l'un des voleurs de se dévouer. Il partit pour la ville, déguisé en marchand, et arriva au point du jour, trouva sur la place Baba Mustapha qui ouvrait sa boutique. Le voleur lui souhaita le bonjour et voyant qu'il était très vieux. « Bonhomme, lui dit-il, vous commencez à travailler de grand matin. » « Il n'est pas possible que vous y voyez encore clair, âgé comme vous l'êtes. Et même s'il faisait plus clair, je doute que vous ayez d'assez bons yeux pour coudre. »« dit Baba Mustapha, il faut que vous ne me connaissiez pas. J'ai beau être vieux, j'ai des yeux excellents. » Et vous n'en douterez pas quand vous saurez qu'il n'y a pas longtemps que j'ai cousu un mort dans un lieu où il ne faisait guère plus clair qu'il ne fait actuellement. Un mort ? Reprit avec étonnement le voleur. Pourquoi coudre un mort ? Vous voulez dire sans doute que vous avez cousu le linceul, le drap dans lequel était enveloppé ce mort. « Non, 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 dit Baba Mustapha, je sais ce que je veux dire. Vous voudriez me faire parler, mais vous n'en saurez pas davantage. » Le voleur tira une pièce d'or de sa bourse et la mettant dans les mains de Baba Mustapha, il lui dit « Je ne vous demande pas votre secret. La seule chose dont je vous prie, c'est de venir me montrer la maison où vous avez cousu ce mort. » Baba Mustapha répondit qu'il avait fait le chemin les yeux bandés. « Mais, répondit le voleur, vous devez vous souvenir à peu près du chemin qu'on vous a fait faire les yeux bandés. Venez donc avec moi, je vous banderai les yeux en cet endroit-là, et nous marcherons ensemble par le même chemin et par les mêmes détours que vous pourrez vous remettre dans la mémoire. Et comme toute peine mérite récompense, voici une autre pièce d'or. « Venez, faites-moi le plaisir que je vous demande. » Baba Mustapha prit la pièce d'or et mena le voleur avec lui jusqu'à l'endroit où Morgiane lui avait bandé les yeux. Quand ils furent arrivés, « C'est ici, dit Baba Mustapha, qu'on m'a bandé, et j'étais tourné comme vous me voyez. » Le voleur, qui avait son mouchoir prêt, lui banda les yeux et marcha à côté de lui, en partie en le conduisant, en partie en se laissant conduire par lui, jusqu'à ce qu'il s'arrêta. « C'est là que j'ai dû m'arrêter, dit alors Baba Mustapha, qui était justement devant la maison d'Ali Baba. » Avant de lui ôter le mouchoir des yeux, le voleur fit en cachette une marque avec de la craie qu'il tenait prête, et quand il eut ôté le mouchoir, il demanda à Baba Mustapha s'il savait à qui appartenait la maison. Baba Mustapha lui répondit qu'il n'était pas du quartier et qu'il ne pouvait rien lui en dire. Comme le voleur vit qu'il ne pouvait pas en apprendre davantage de Baba Mustapha, il le remercia de la peine qu'il lui avait fait prendre, et après qu'il l'eut quitté et laissé retourner à sa boutique, il reprit le chemin de la forêt, persuadé qu'il serait bien reçu. Peu de temps après que le voleur et Baba Mustapha se furent séparés, Morgiane sortit de la maison d'Ali Baba pour faire des courses. Et en revenant, elle remarqua la marque que le voleur y avait faite. Que signifie cette marque, se dit-elle en elle-même. Quelqu'un voudrait-il faire du mal à mon maître, ou des gamins l'ont-ils faite pour s'amuser? Par précaution, elle prend aussitôt de la craie, et comme les deux ou trois portes voisines étaient semblables, elle les marqua au même endroit, et elle rentra dans la maison sans parler de ce qu'elle venait de faire ni à son maître ni à sa maîtresse. Le voleur rejoignit sa troupe et fit part du succès de son entreprise. À la nuit, tous prirent le chemin de la ville. Le capitaine et son envoyé retrouvèrent la rue où était la maison d'Ali Baba, mais la précaution de Morgiane, qui avait fait des croix sur les portes des maisons voisines, les dérouta. La troupe retourna dans la forêt où le voleur fut mis à mort. Quelques jours après, un autre brigand recommença l'expédition. Il donne une pièce d'or à Baba Mustapha comme le premier l'avait fait, et Baba Mustapha lui fait connaître la maison d'Ali Baba, les yeux bandés. Le voleur fait un rond dans un endroit moins apparent, en comptant que c'était un moyen sûr pour distinguer la porte d'avec celle qui était marquée d'une croix. Mais peu de temps après, Morgiane sortit de la maison comme le jour précédent. Et quand elle revint, elle aperçut le rond. Elle ne manqua pas de faire la même marque ronde aux autres portes voisines et aux mêmes endroits. Tout se passa comme la première fois et le second voleur fut mis à mort comme le premier. Le capitaine vint alors lui-même à la ville et avec l'aide de Baba Mustapha qui lui rendit le même service qu'aux deux premiers voleurs, il ne s'amusa pas à faire aucune marque pour reconnaître la maison d'Ali Baba. Mais il l'examina si bien, non seulement en la considérant attentivement, mais même en passant et en repassant plusieurs fois par devant, qu'il n'était pas possible qu'il s'y trompât. Quand il eut rejoint ses compagnons, il les chargea d'aller dans les environs et d'acheter 19 mulets et 38 grandes outres de cuir à transporter de l'huile, l'une pleine et les autres vides. Comme les outres vides étaient un peu étroites d'ouverture, le capitaine les fit un peu élargir, et après avoir fait entrer un des voleurs dans chacune, avec les armes qu'il avait jugées nécessaires, en laissant ouvert ce qu'il avait fait découdre afin de leur laisser la respiration libre, il ferma les outres de manière qu'elles paraissaient pleines d'huile, et pour mieux les camoufler, il les frotta par dehors avec de l'huile qu'il prit du vase qui en était plein. Les choses ainsi disposées, quand les mulets furent chargés des 37 voleurs et du vase qui était plein d'huile, leur capitaine se mit à la tête du convoi, déguisé en marchand, prit le chemin de la ville et alla droit à la maison d'Ali Baba pour frapper à la porte et demander à y passer la nuit avec ses mulets. Il trouva Ali Baba à la porte qui prenait le frais après le dîner. Le capitaine fit arrêter ses mulets et s'adressant à Ali Baba, « Seigneur, dit-il, j'amène l'huile que vous voyez de bien loin pour la vendre demain au marché. Et à l'heure qu'il est, je ne sais pas où aller loger. Si cela ne vous incommode pas, faites-moi le plaisir de me recevoir chez vous pour y passer la nuit. Je vous en serai bien reconnaissant. « Vous êtes le bienvenu, dit Ali Baba, entrez. » Et en disant ces paroles, il lui fit place pour le laisser entrer avec ses mulets. On mit les mulets à l'écurie et Morgiane fut chargée de préparer le dîner. Pendant qu'Ali Baba lui donnait ses ordres, le capitaine entra dans la cour où l'on avait placé les outres et alla dire aux voleurs ce qu'il devait faire. En commençant depuis la première outre jusqu'à la dernière, il dit à chacun « Quand je jetterai de petites pierres de la chambre où l'on me loge, ne manquez pas de vous faire une ouverture en fendant le vase de cuir depuis le haut jusqu'en bas avec le couteau dont vous êtes muni et d'en sortir. Aussitôt, je vous rejoindrai. » Cela fait, il rentra et Morgiane le conduisit à sa chambre. Dans la nuit, Morgiane manqua de lumière pour sa lampe à huile et elle eut l'idée d'aller prendre de l'huile dans une des outres du marchand. Elle prend sa cruche à huile et va dans la cour. Lorsqu'elle se fut approchée du premier vase qu'elle rencontre, le voleur qui était caché dedans demanda en parlant bas « Est-il temps ?» Quoique le voleur eût parlé bas, Morgiane fut néanmoins frappée de la voix, d'autant plus facilement que le capitaine des voleurs, dès qu'il avait eu déchargé ses mulets, avait ouvert non seulement ce vase, mais même tous les autres, pour donner de l'air à ces gens, qui d'ailleurs y étaient fort mal à leur aise, sans cependant y être privés de la facilité de respirer. Une autre esclave que Morgiane, aussi surprise qu'elle le fut en trouvant un homme dans un vase, au lieu d'y trouver de l'huile qu'elle cherchait, aurait fait un vacarme capable de causer de grands malheurs. Mais Morgiane était très intelligente. Elle comprit en un instant l'importance de garder ce secret, le danger pressant où se trouvaient Ali Baba et sa famille et où elle se trouvait elle-même, et la nécessité d'y apporter rapidement un remède sans faire de bruit. Et par sa finesse, elle trouva tout de suite les moyens. Elle réfléchit donc rapidement et sans faire paraître aucune émotion, faisant semblant d'être le capitaine des voleurs, elle répondit à la demande en disant « Pas encore, mais bientôt. » Elle s'approcha du vase qui suivait, la même demande lui fut faite, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle arrivât au dernier qui était plein d'huile, et à la même demande, elle donna la même réponse. Pas encore, mais bientôt, pas encore, mais bientôt, pas encore, mais bientôt, etc. Morgiane sut ainsi que son maître Ali Baba, qui avait cru ne donner à loger chez lui qu'à un marchand d'huile, y avait donné entrée à 38 voleurs en y comprenant le faux marchand, leur capitaine. Elle remplit sa cruche d'huile qu'elle prit du dernier vase, revint dans sa cuisine, où après avoir mis de l'huile dans la lampe et l'avoir rallumée, elle prend un grand chaudron, elle retourne à la cour et elle emplit le chaudron de l'huile du vase. Elle rapporte le chaudron, le met sur le feu et met dessous beaucoup de bois. L'huile bout enfin. Elle prend le chaudron et va verser dans chaque vase assez d'huile toute bouillante, depuis le premier jusqu'au dernier, pour étouffer les voleurs et leur ôter la vie. Cette action, digne du courage de Morgiane et exécutée sans bruit, elle revient dans la cuisine avec le chaudron vide et ferme la porte. Elle éteint le grand feu qu'elle avait allumé. Ensuite, elle souffle la lampe pour l'éteindre et demeure dans le noir, dans un grand silence, décidée à ne pas se coucher avant d'avoir observé ce qui arriverait par une fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour. Il n'y avait pas un quart d'heure que Morgiane attendait quand le capitaine des voleurs s'éveilla. Il se lève, il donne le signal en jetant de petites pierres dont plusieurs tombèrent sur les vases, comme il n'en douta pas par le son qui lui en vint aux oreilles. Il écoute et n'entend ni ne voit rien qui lui fasse connaître que les voleurs se mettent en mouvement. Il est inquiet de ne rien voir bouger. Il descend dans la cour tout alarmé. Il approche du premier vase et quand il veut demander au voleur qu'il croit vivant s'il dort, il sent une odeur d'huile chaude et de brûlé qui sort du vase. Il passe au vase qui suivait et à tous les uns après les autres et il trouve que tous les voleurs étaient morts de la même façon. Et par la diminution de l'huile dans le vase qu'il avait apporté plein, il comprit la manière dont on s'y était pris pour tuer les voleurs. Au désespoir d'avoir manqué son coup, il sortit par la porte du jardin d'Ali Baba qui donnait dans la cour, et de jardin, en passant par-dessus les murs, il se sauva. Au matin, Morgiane conduisit Ali Baba dans la cour en grand mystère. Quand elle eut fermé la porte, elle le mena au premier vase. Regardez dans le vase, lui dit-elle, et voyez s'il y a de l'huile. Ali Baba regarda, et voyant un homme dans le vase, il se retira en arrière, tout effrayé, avec un grand cri. Ne craignez rien, lui dit Morgiane. L'homme que vous voyez ne vous fera pas de mal. Il en a fait, mais il ne peut plus en faire, ni à vous, ni à personne. Il est mort. Elle le conduisit ensuite aux autres vases, et quand il eut constaté la mort de tous les voleurs, elle le mit au courant des événements de la nuit. Ali Baba remercia vivement Morgiane et lui promit de la récompenser. Puis, tous les deux ensemble, ils enterrèrent de nuit les 37 voleurs dans une fosse creusée au bout du jardin. Personne dans la ville ne se douta de ce tragique événement. Cependant, le capitaine méditait une terrible vengeance. Il se déguisa avec le plus grand soin et vint s'établir comme marchand dans une boutique située en face de celle du fils d'Ali Baba. Il se lia avec ce jeune homme, lui fit habilement de nombreuses politesses et se fit présenter à son père qui ne le reconnut pas et qui en vint un jour à l'inviter à dîner. Le capitaine, au comble de la joie, accepta cette invitation où il se rendit avec un poignard caché sous sa robe. Mais l'adroite Morgiane qui les servait à table ne tarda pas à reconnaître l'ennemi de ses maîtres. Elle aperçut aussi le poignard qu'il dissimulait et résolut de l'empêcher encore une fois de faire du mal. Le capitaine avait projeté d'enivrer Ali Baba et son fils et de profiter de leur ivresse pour les égorger avec son poignard. Morgiane ne lui en laissa pas le temps. Elle s'habilla d'un habit de danseuse fort élégant, prit une coiffure convenable et une ceinture d'argent doré à laquelle elle attacha un poignard dont la gaine et le manche étaient de même métal, et avec cela appliqua un fort beau masque sur son visage. Quand elle fut déguisée de la sorte, elle entra dans la salle du festin et, avec l'autorisation de son maître, exécuta plusieurs danses avec beaucoup de légèreté, de force et d'agrément. Puis elle tira le poignard et, le tenant à la main, elle en dansa une dans laquelle elle se surpassa par les figures différentes, par les mouvements légers, par les sauts surprenants et par les efforts merveilleux dont elle les accompagna, tantôt en présentant le poignard en avant comme pour frapper, tantôt en faisant semblant de s'en frapper elle-même. Comme essoufflée, enfin, elle arracha de la main gauche le tambour de basque des mains du musicien qui l'accompagnait, et tenant le poignard de la main droite, elle alla présenter le tambour de basque par le creux à Ali Baba, à l'imitation des danseurs et des danseuses de profession qui font ainsi pour faire la quête auprès des spectateurs. Ali Baba jeta une pièce d'or dans le tambour de basque de Morgiane. Morgiane s'adressa alors au fils d'Ali Baba qui suivit l'exemple de son père. Le capitaine, qui vit qu'elle allait aussi venir à lui, avait déjà tiré sa bourse pour lui faire son présent et il y mettait la main lorsque Morgiane lui enfonça le poignard au milieu du cœur et ne le retira qu'après l'avoir tué. Ali Baba et son fils, épouvantés de cette action, poussèrent un grand cri. « Malheureuse !» s'écria Ali Baba, « qu'as-tu fait ? Veux-tu nous perdre, moi et ma famille ?»« Ce n'est pas pour vous perdre, » répondit Morgiane. « Je l'ai fait pour vous sauver. » Alors, en ouvrant la robe du capitaine et en montrant à Ali Baba le poignard dont il était armé, « Voyez, » dit-elle, « à quel féroce ennemi vous aviez affaire. Et regardez bien son visage, vous y reconnaîtrez le faux marchand d'huile et le capitaine des 40 voleurs. » Ali Baba ne savait pas comment récompenser Morgiane. Il offrit à son fils de l'épouser, ce que celui-ci accepta avec le plus grand plaisir. Puis, tous les trois s'occupèrent de faire disparaître le corps du capitaine. Le mariage fut célébré quelques jours après. Le trésor des voleurs enrichit Ali Baba et sa famille, qui vécurent dans l'opulence, entourés de l'estime universelle. Fin de l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. J'ai oublié de t'expliquer le titre des contes des 1001 nuits. Sache donc qu'un sultan de l'Inde, ayant eu gravement à se plaindre de sa sultane, l'avait fait mettre à mort. Il jura d'épouser chaque jour et de faire mourir au lever du soleil une femme nouvelle. Après quelques mois de ce régime terrifiant, la fille d'un grand vizir, la belle Scheherazade, se dévoie pour calmer le sultan. Elle lui demanda à être choisie, et avant la fin de la nuit, elle commença une si belle histoire que le sultan ne put pas se résoudre à en ignorer la fin. Comme il tenait à se lever de bon matin avant le soleil, il attendit au lendemain pour faire mettre à mort Scheherazade. Celle-ci, maligne, de nuit en nuit et d'histoire en histoire, fit si bien que le sultan oublia son serment et, après avoir accordé 1000 sursis, se décida, quand le soleil se leva pour la 1001e fois, à supprimer la loi barbare qu'il avait établie. Tu trouveras d'autres contes des 1001 nuits enregistrés sur cassette, notamment Le cheval enchanté, Aladdin ou la lampe merveilleuse, L'histoire de deux sœurs jalouses de leur cadette, L'histoire du pêcheur est un conte des 1001 nuits qui se trouve à la suite de l'histoire de Blondine, Bonne-Biche et Beau-Minon, L'histoire d'Ali Cogia, marchand de Bagdad, se trouve à la suite de l'histoire du nain long-né de Hauf, H-A-U-2-F. Enfin, le même Hauf a écrit deux contes dans la manière des 1001 nuits, Le petit mouk et Le faux prince. Il y a encore beaucoup, beaucoup de contes des 1001 nuits, mais tous ne sont pas pour les enfants.